Au petit matin, la battue commença. Elle dura 4 heures. En 4 heures, les 5 hectares du domaine furent visités, fouillés, arpentés en tous sens par une vingtaine d'hommes qui frappaient les buissons à coups de canne, piétinaient les touffes d'herbe, scrutaient le creux des arbres, soulevaient les amas de feuilles sèches. Et le père Traînard demeura invisible.
« Oh ben, elle est raide, celle-là. »«
C'est à n'y rien comprendre, »
répliquait le brigadier. Phénomène inexplicable, en effet. Car enfin, à part quelques anciens massifs de lauriers et de fusains, que l'on bâtit consciencieusement, tous les arbres étaient dénudés. Il n'y avait aucun bâtiment, aucun hangar, aucune meule. Bref, rien qui pût servir de cachette. Quant au mur, un examen attentif convainquit le brigadier lui-même. L'escalade en était matériellement impossible. L'après-midi, on recommença les investigations en présence du juge d'instruction et du substitut. Les résultats ne furent pas plus heureux. Bien plus, cette affaire parut aux magistrats tellement suspecte qu'ils manifestèrent leur mauvaise humeur et ne purent s'empêcher de dire
« Êtes-vous bien sûr, maître Goussot, que vos fils et vous n'avez pas eu la berlue ?»
Et ma femme, est-ce qu'elle avait la berlue quand le chenapan lui scellait la gorge? Regardez voir les marques.
Soit, mais alors où est-il le chenapan?
Ici, entre ces 4 murs.
Soit, alors cherchez-le. Pour nous, nous y renonçons. Il est trop évident que si un homme était caché dans l'enceinte de ce domaine, nous l'aurions déjà découvert.
Eh ben, je mettrai la main dessus, moi qui vous parle. Il se l'aura pas dit qu'on m'aura volé 6 000 francs. Oui, 6 000. Il y avait 3 vaches que j'avais vendues, et puis la récolte de blé, et puis les pommes. 6 billets de 1 000 que j'allais porter à la caisse. Eh ben, je vous jure, Dieu, que c'est comme si je les avais dans ma poche.
Tant mieux, je vous le souhaite,
fit le juge d'instruction en se retirant, ainsi que le substitut et les gendarmes. Les voisins s'en allèrent également, quelque peu goguenards, et il ne resta plus, à la fin de l'après-midi, que les Goussot et les 2 valets de ferme. Tout de suite, maître Goussot expliqua son plan. Le jour, les recherches. La nuit, une surveillance de toutes les minutes. Ça durerait ce que ça durerait. Mais quoi? Le père Traînard était un homme comme les autres. Et les hommes, ça mange et ça boit. Il faudrait donc bien que le père Traînard sortît de sa tanière pour manger et pour boire.
Oh, à la rigueur, il peut avoir dans sa poche quelques croûtes de pain ou encore ramasser la nuit quelques racines. Mais pour ce qui est de la boisson, rien à faire. Il n'y a que la fontaine. Bien malin s'il en approche.
Lui-même, ce soir-là, il prit la garde auprès de la fontaine. 3 heures plus tard, l'aîné de ses fils le relaya. Les autres frères et les domestiques couchèrent dans la maison, chacun veillant à son tour et toute bougie, toute lampe allumée pour qu'il n'y eût pas de surprise. 15 nuits consécutives, il en fut de même. Et 15 jours durant, tandis que 2 hommes et que la mère Goussot restaient de faction, les 5 autres inspectaient le clos d'Héberville. Au bout de ces 2 semaines, rien. Le fermier ne dérageait pas. Il fit venir un ancien inspecteur de la sûreté qui habitait la ville voisine. L'inspecteur demeura chez lui toute une semaine. Il ne trouva ni le père Traînard, ni le moindre indice qui pût donner l'espérance de le trouver.
Oh, les raides, car il est là, le vaurien. Pour la question d'y être, il y est, alors.
Se plantant sur le seuil de la porte, il invectivait l'ennemi à pleine gueule.
Bougre d'idiot, t'aimes donc mieux crever au fond de ton trou que de cracher l'argent. Crève donc, saligaud.
Et la mère Goussot, à son tour, glapissait de sa voix pointue.
« C'est-il la prison qui te fait peur? Lâche les billets et tu pourras les guérir !»
Mais le père Traînard ne soufflait mot, et le mari et la femme s'époumonnaient en vain. Des jours affreux passèrent. Maître Goussot ne dormait plus, tout frissonnant de fièvre. Les fils devenaient hargneux, querelleurs, et ils ne quittaient pas leurs fusils, n'ayant d'autre idée que de tuer le cheminot. Au village, on ne parlait que de cela, et l'affaire Goussot, locale d'abord, ne tarda pas à occuper la presse. Du chef-lieu, de la capitale, il vint des journalistes, que maître Goussot y conduisit avec des sottises.
« Chacun chez soi, Mêlez-vous de vos occupations. J'ai les miennes. Personne n'a rien à y voir.
Cependant, maître Gousseau...
Fichez-moi la paix !»
Et il leur fermait sa porte au nez. Il y avait maintenant 4 semaines que le père Traînard se cachait entre les murs d'Héberville. Les Gousseau continuaient leurs recherches par entêtement et avec autant de conviction, mais avec un espoir qui s'atténuait de jour en jour. Et comme s'ils se fussent heurtés à un de ces obstacles mystérieux qui découragent les efforts. Et l'idée qu'ils ne reverraient pas leur argent commençait à s'implanter en eux. Or, un matin, vers 10 heures, une automobile qui traversait la place du village à toute allure s'arrêta net, par suite d'une panne. Le mécanicien ayant déclaré, après examen, que la réparation exigerait un bout de temps, le propriétaire de l'automobile résolut d'attendre à l'auberge et de déjeuner. C'était un monsieur encore jeune, à favoris coupés courts, au visage sympathique, et qui ne tarda pas à lier conversation avec les gens de l'auberge. Bien entendu, on lui raconta l'histoire des Gousseau. Il ne la connaissait pas, arrivant de voyage, mais il parut s'y intéresser vivement. Il se la fit expliquer en détail, formula des objections, discuta des hypothèses avec plusieurs personnes qui mangeaient à la même table, et finalement s'écria « Bon, ça doit pas être si compliqué. J'ai un peu l'habitude de ces sortes d'affaires. Et si j'étais sur place ?»«
Facile !» dit l'aubergiste. « Et je connais Maître Gousseau, il ne refusera pas !»
Les négociations furent brèves. Maître Gousseau se trouvait dans un de ces états d'esprit où l'on proteste moins brutalement contre l'intervention des autres. En tout cas, sa femme n'hésita pas.
« À qui vient donc ce monsieur ?»
Le monsieur régla son repas et donna l'ordre à son mécanicien d'essayer la voiture sur la grande route, aussitôt que la réparation serait terminée.
« Il me faut 1 heure, pas davantage. Dans 1 heure, soyez prêts. »
Puis il se rendit chez Maître Gousseau. À la ferme, il parla peu. Maître Gousseau, repris d'espérance malgré lui, multiplia les renseignements, conduisit son visiteur le long des murs et jusqu'à la petite porte des champs, montra la clé qu'il ouvrait et fit le récit minutieux de toutes les recherches que l'on avait opérées. Chose bizarre, l'inconnu, s'il ne parlait point, semblait ne pas écouter davantage. Il regardait, tout simplement, et avec des yeux plutôt distraits. Quand la tournée fut finie, Maître Gousseau dit anxieusement
« Eh bien ?»«
Quoi ?»«
Vous savez ?»
L'étranger resta un moment sans répondre, puis il déclara
« Non, rien du tout. »«
Parbleu, est-ce que vous pouvez savoir ? Tout ça, c'est de la frime. Voulez-vous que je vous dise, moi ? Eh bien, le père Traînard a si bien fait qu'il est mort au fond de son trou. » Et que les billets pourriront avec lui, vous entendez? C'est moi qui vous le dis. »
Le monsieur, très calme, prononça « Un seul point m'intéresse. Le cheminot, somme toute, étant libre, la nuit a pu se nourrir tant bien que mal. Mais comment pouvait-il boire ?»«
Impossible. Il n'y a que cette fontaine et nous avons monté la garde contre, toutes les nuits. » »«
C'est une source? Où jaillit-elle ? » «
Ici même. »
« Il y a donc une pression suffisante pour qu'elle monte seule dans le bassin ?»«
Oui. » »«
Et l'eau, où s'en va-t-elle quand elle sort du bassin ?»«
Dans ce tuyau que vous voyez, qui passe sous terre et qui la conduit jusqu'à la maison, où elle sert à la cuisine. »« Donc, pas moyen d'en boire, puisque nous étions là et que la fontaine est à 20 mètres de la maison. » »«
Il n'a pas plu durant ces 4 semaines ?»«
Pas une fois, je vous l'ai déjà dit. »
L'inconnu s'approcha de la fontaine et l'examina. L'auge était formée par quelques planches de bois assemblées au-dessus même du sol et où l'eau s'écoulait, lente et claire. « Il n'y a pas plus de 30 centimètres d'eau en profondeur, n'est-ce pas ?» Pour mesurer, il ramassa sur l'herbe un fétu de paille qu'il dressa dans le bassin. Mais, comme il était penché, il s'interrompit soudain au milieu de sa besogne et regarda autour de lui. Ah, que c'est drôle!
Quoi? Qu'est-ce que c'est?
Balbutia Maître Gousseau qui se précipita sur le bassin comme si un homme eût pu se tenir couché entre ses planches exiguës.
Quoi? Vous l'avez vu? Où est-il?
Ni dedans, ni dessous.